Radio Okapi.
Grâce à Mzati à la présentation.
Au sommaire de ce journal, drame dans la province du Maïndombé. Une vingtaine de morts, plusieurs disparus et 30 rescapés après le naufrage dimanche d'une embarcation sur la rivière Kwa près de Mouchi. Selon les autorités locales, la cause de cet accident est la surcharge. L'armée congolaise a bombardé ce lundi l'aérodrome de Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi et Uvira au sud Kivu afin de détruire tous les aéronefs en provenance de Bukavu qui transportaient les rebelles du M23. Affirmation faite par le vice-gouverneur de cette province, Jean-Jacques Elakano, qui annonce qu'une dizaine de rebelles ont été neutralisés. Certains chefs des groupes armés locaux ont annoncé ce week-end leur défection dans la coalition des volontaires pour la défense de la patrie en vue de se rallier à la rébellion du M23 AFC dans le Nord Kivu. Nous en parlons avec notre invité Henri Pacifique Mayala. Il est membre du groupe de recherche baromètre sécuritaire qui fait une analyse sur cette situation. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons ce journal par ces drames. Plusieurs morts et des disparus enregistrés lors d'un naufrage survenu dans la nuit de dimanche sur la rivière Kwa près de Mouchi, chef-lieu du territoire qui porte le même nom dans la province de Maïndombé. Les sources officielles indiquent que l'embarcation a quitté cette cité pour se rendre au village Ngambomi. Selon le porte-parole du gouvernement provincial Alexis Mputu, le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts et 30 rescapés. Et la première cause du dit naufrage est la navigation nocturne, précise-t-il. Le récit de Irène Mbomalozolo.
D'après les sources concordantes, la dite baleinière a quitté le port de Mouchi à 23h de dimanche à destination du village Ngambomi et a chaviré sur la rivière Kwa à près de 12 km de cette cité, chef-lieu du territoire portant le même nom. Cette embarcation en bois transportait à son bord notamment des joueurs de cette localité après un match de football à Mouchi. Le bilan provisoire fait état de 25 morts et 30 rescapés selon les porte-parole du gouvernement provincial du Maïndombé. Pour Alexis Mputu, qui affirme que la baleinière était déséquilibrée, la navigation nocturne reste la principale cause de ce naufrage. La survenue de cet accident est aussi confirmée par le commissariat fluvial de Mouchi, qui ne livre aucun détail avant d'arriver sur terrain. Même chose du côté de l'administration territoriale, qui dit avoir des difficultés pour se rendre au lieu du drame. Renacle Kwatiba est l'administrateur du territoire de Mouchi.
Il y a eu beaucoup de morts, mais nous ne connaissons pas le nombre exact. On devrait se rendre sur les lieux. Malheureusement, nous manquons de moyens pour payer les carburants qu'on sort, mais réellement, il y a eu des morts là.
Pour la population du Maïndombé, les naufrages ne sont plus un fait nouveau, car ils surviennent couramment dans cette province. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre lieu, autre drame. 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan corps provisoire du braquage ayant pris pour cible ce mardi le shop TNT Service situé dans la commune de Selemba ou ici à Kinshasa. D'après le bourgmestre de cette commune qui livre l'information à Radio Okapi, le drame s'est déroulé à 9h25. 9 bandits à main armée opérant sur des motos ont fait irruption dans ces shops spécialisés en services financiers, emportant une somme d'argent dont le montant n'est pas encore connu. Les 3 victimes sont des passagers et le conducteur d'une moto qui s'est dirigée vers Lupen. Mathias Womumu est joint au téléphone par Babel Mpongo et Ploté Yambenga.
Il y a sur la 24 novembre, croisement Panzo, un shop TNT de transfert de monnaie qui a été attaqué. Et juste sur la 24 novembre, du côté marché, Selemba appelé communément Selemba. Mais c'est du côté Bumbu. Quand il sortait, quand il commençait à tirer Selemba, il tirait du côté Selemba. C'est pourquoi les gens qui étaient sur la moto ont reçu des balles, ils ont tombé sur place et ils ont décédé sur place. L'autre, on l'a cheminé vers l'hôpital du Kakukolo et il a rendu l'arme. Mais jusqu'à présent, les identités n'est pas encore révélées parce qu'il n'y a pas de pièces d'identité. On a essayé, après avoir fait le rapport auprès des autorités, auprès du ministre de l'Intérieur et le gouverneur, avec l'auditeur militaire de garnison de Gitassangalem, nous attendons maintenant les instructions pour que nous puissions lever le corps. Mais on a quand même commencé à appeler ou à publier certaines photos pour que leurs familles peuvent les reconnaître facilement. En attendant que le ministère public puisse donner les orientations pour le lever du corps.
Nous l'avons dit au sommaire, au sud Kivu, les forces armées de la RDC ont procédé lundi au bombardement de l'aérodrome de Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi et Uvira, qui n'est plus opérationnel. Selon le vice-gouverneur, cette opération a permis de détruire tous les aéronefs en provenance de Bukavu qui transportaient les rebelles du M23, mais aussi ravitailler en munitions et équipements militaires les groupes armés locaux des Tuiruaneo et Red Tabara qui soutiennent la rébellion du M23 et son allié le Rwanda. Jean-Jacques Elakano ajoute qu'une dizaine des rebelles sont neutralisés. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, joint par Martial Kizabiamungo.
Actuellement de la part du Rwanda, il veut à tout prix passer par Kaziba pour faire jonction avec ceux qui sont à Minembwe et les renforts sont acheminés à l'aérodrome de Minembwe. L'objectif étant de faire jonction et les deux territoires. Il y a des bombardements intenses et l'aérodrome de Minembwe. Cet aérodrome était déjà entre les mains de quelques supplétifs du Rwanda comme le Néo, leurs alliés de Red Tabara et voulaient utiliser l'aérodrome pour perturber la tranquillité. La sécurité dans les territoires du Virai. Présent, le haut commandement militaire a pu saisir la barre au bon pour neutraliser ces rotations de quelques aéronefs qui faisaient Bukavu jusqu'à l'aérodrome de Minembwe.
En réaction sur son compte X, l'ancien sénateur Moïse Nyarugabo déplore les bombardements qui, d'après lui, ont visé non seulement des villages de Minembwe, mais aussi la piste de l'aérodrome de Minembwe, qui n'est utilisé que pour des raisons commerciales et humanitaires, pour un coin aussi enclavé et où toutes les autres voies sont bloquées par les FARDC et les groupes armés, affirme-t-il. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours FARDC, ont présenté hier devant la presse de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, le résultat de leurs efforts dans les opérations militaires. Il s'agit des rebelles qui se sont rendus et d'autres capturés lors des opérations militaires dans les fronts nord, c'est-à-dire dans la région de Beni et Lubero. C'est ce que nous dit Guylaine Kasasia.
Lors de cette présentation, l'armée a montré deux individus tanzaniens arrêtés alors qu'ils étaient en route vers une base de rebelles ZADF se trouvant à Mambasa. Ils avaient été interceptés à la barrière de Pasisi, transportés à moto par un collaborateur des ZADF. Pasisi se trouve à la sortie sud-ouest de la ville de Beni. Les FARDC ont également présenté un soldat RDF au sud de Lubero lors des affrontements contre les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda et deux volontaires pour la défense de la patrie VDP du groupe Mai Mai, Force du Patriote pour la paix barre armée du peuple FPPAP du général autoproclamé Kabidon. Ces arrestations interviennent pendant que les FARDC poursuivent les opérations des traques contre les groupes armés opérant dans la région de Beni, Butembo et Lubero, notamment les rebelles des ZADF et du M23 soutenus par le Rwanda. Le colonel Makazu Kai, porte-parole des opérations Front Nord, a rassuré que toutes ces personnes qui se sont rendues ou capturées seront traitées conformément au principe de droit international humanitaire. Beni, Gulen Kasasia, Radio Okapi.
La ville de Kisangani n'a pas encore fini à panser ses plaies contractées lors des différentes guerres du Rwanda dans cette ville. Les stigmates de ces guerres sont encore visibles dans cette entité. Voilà qu'une nouvelle guerre sévit à l'est du pays alors que l'espoir commençait déjà à naître dans la capitale de la Tchopo, regrette ainsi Patrick Matata Makalamba, député national élu de la ville de Kisangani. C'était hier au cours d'un point de presse. Pour cela, il dit au nom de la population locale non à la guerre d'agression au pays et à Kisangani. Il appelle ainsi la population à la vigilance et à la résistance. Un extrait de ses propos est choisi par Jacques Moukankolé.
Toute l'histoire de la souffrance de la RDC est portée par la ville de Kisangani, est portée par la province de la Tchopo, est portée par la Grande Orientale. À tel point qu'à un moment donné, on nous a même appelé ville martyre. Nous voulons aujourd'hui être appelés ville d'espoir pour ne pas porter tous ces affres de la guerre que nous avons connues par les passés. Nous n'avons pas encore fini de panser nos plaies par rapport aux agressions antérieures. Guerre d'un jour, guerre de trois jours, guerre de six jours, ici chez nous. À la faveur de l'intervention du chef d'élite, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons le FRIVAO, nous avons le FONAREV, qui ont commencé l'identification, l'indemnisation des victimes. On n'a même pas encore fini ces processus, et voilà, de nouveau, une autre guerre qui va venir, avec une cohorte de cauchemars, des violations de droits de l'homme, ici à Kisangani. C'est ainsi qu'il était temps d'appeler la population à la vigilance, à la résistance, contre cette nouvelle agression. Parce qu'en effet, ça fait 30 ans que le Rwanda sème la calamité la plus odieuse en République démocratique du Congo. Tous les efforts fournis par différents gouvernements pour qu'il y ait la paix entre le Congo et le Rwanda ont été sabotés par le Rwanda. Et trop, c'est trop.
Dans l'actualité, sachez aussi que les élèves du complexe scolaire Saint-Benoît, situé au village Massiambio, sur la route nationale numéro 17 dans les territoires des Kwamouth, ainsi que le corps enseignant soutiennent et compatissent avec les femmes et filles de l'Est du pays, victimes des hostilités des rebelles du M23 et des autres groupes armés. Concernés aussi par des violences similaires à Kwamouth perpétrées par la milice Mobondo, ils exigent le retour de la paix dans l'Est du pays et à Kwamouth, au Maïndombé, pour permettre aux enfants d'étudier dans toute quiétude. Pour faire entendre leur voix, ils ont organisé hier une marche pacifique dans le rue des Massiambio. La sœur Yvette Ndona de la congrégation Saint-Benoît-Joseph Labre est la directrice de cette école. Elle explique au micro de Irène Mbomalozolo.
Les enfants ont marché pour soutenir nos mamans, nos filles, nos jeunes, nos enfants de l'Est qui sont maltraités, violés, tués. Alors nous voulons que la paix revienne dans notre pays. La paix revienne dans notre pays parce que même chez nous ici, dans le plateau, si nous sommes en paix, les enfants vont étudier comme il faut. Mais si on n'est pas en paix, il y a la guerre, il y a des traumatismes. Alors les enfants sont traumatisés, ils ne savent pas bien étudier. Nous voulons la paix chez nous à Maïndombe, nous voulons la paix à l'Est du pays, que nos mamans ne soient plus violées, dérangées et que les enfants étudient comme il faut. Malgré nous sommes dans une zone rouge où il n'y a pas encore la paix, mais notre souci est de faire étudier ces enfants parce que c'est l'avenir de demain.
Nous sommes dans la province du Tanganyika. Le parquet près le tribunal de paix de Kalemie a scellé la paroisse de la 30e communauté des églises pentecôtistes au Congo Ebenezer de Kabimba dans les territoires de Kalemie. D'après le magistrat qui instruit le dossier et qui s'est confié aujourd'hui à Radio Okapi, une crise de leadership oppose deux pasteurs de cette église. Et il précise que l'église est scellée pour prévenir des troubles à l'ordre public. Paul Mounanga.
Cette crise a commencé depuis le 5 mars dernier, le jour où la paroisse a été scellée. Deux pasteurs sont en conflit et chacun est soutenu par ses fidèles. Le pasteur Kisika Lumumba, qui a fait défection, dit avoir changé de juridiction en quittant celle de Kabimba pour s'allier à la 30e CPECO de Kamina. Il a emporté plusieurs biens de l'église et une partie des fidèles l'ont suivi, rapporte des sources locales. Il accuse le révérend David Manan, président ecclésiastique de la 30e CPECO, de mégestion. Face à cette situation, ce dernier a saisi la justice, accusant le pasteur Kisika Lumumba d'avoir subtilisé les biens de l'église. C'est ainsi que le pasteur qui a fait défection a été arrêté par le parquet près le tribunal de paix de Kalemie avant d'être relâché quelques jours après. Le magistrat annonce que le pasteur a déjà restitué quelques biens de l'église. Dans cette confusion, il a pris la décision de sceller la paroisse du pasteur qui a fait défection. D'après lui, cette décision est prise pour prévenir des troubles à l'ordre public.
Merci à vous, Paulin Mounanga, pour ce récit. La 11e édition du village des femmes entrepreneurs de la RDC a fermé ses portes le dimanche à Kinshasa. Cette activité, marquée par des expositions et ventes des produits issus du travail des femmes, a été organisée à l'occasion de la journée du 8 mars. Objectif, promouvoir les progrès réalisés par les femmes et les encourager à se tenir debout afin de valoriser leurs talents. Il a été aussi question pour ces entrepreneurs d'apporter leur soutien au FRDC et de dénoncer les violences dont sont victimes les femmes dans l'Est du pays. Un reportage de Gloria Lutula.
Parmi les structures qui ont exposé leurs produits, on compte les Délices du Congo, une ferme qui s'adonne à la transformation agroalimentaire. Son initiatrice, Fifi Ngalula, explique ce qui est fait. Elle appelle aussi d'autres femmes à être actives et à s'former.
J'ai fait de l'élevage, le lapin, l'écaille, le poisson, et je les transforme. Par exemple, là, vous avez la transformation de lapin en terrine de lapin. Mais je peux faire cette transformation avec le canard, avec le porc, avec l'écaille.
Ramène Ngalula est dans les domaines du pain. Elle plaide pour l'autonomie de la femme et aussi un accompagnement de l'autorité.
Je fais des chouchous, des sacs de bavoir, des vêtements pour enfants dont je transforme le pagne.
La santé n'a pas été en reste au cours de cette activité. La sensibilisation sur l'éducation menstruelle des filles a été assurée sur place par Océane Wanita, créatrice des culottes menstruelles Nita.
J'éduque les jeunes filles sur l'hygiène menstruelle. Le produit, ce sont des culottes menstruelles qui sont lavables, réutilisables pendant 5 ans, qui ont une capacité d'absorption de 8 à 12 heures et qui sont antibactériennes, anti-fuites.
Cette journée d'exposition a permis aussi aux participants de connaître leur taux de glycémie et de bénéficier de conseils. Cela grâce à Initiative du diabétique en RDC, en partenariat avec CHU Renaissance, ex-Mamaemo.
Actualité internationale.
Au Gabon, un air de campagne électorale souffle déjà dans le pays. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a passé une partie du week-end dans le nord du pays. Les candidats récalés à l'élection présidentielle du 12 avril prochain ont multiplié les déclarations pour contester la décision. De son côté, Alain-Claude Bali-Bainze, l'un des quatre candidats retenus, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté son projet.
L'invité.
Dans la province du Nord Kivu, certains chefs des groupes armés locaux ont annoncé le week-end leur défection dans la coalition des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, pour se rallier à la rébellion du M23 AFC. Notre invité, Henri Pacifique Mayala, membre du groupe des recherches baromètre sécuritaire du Nord Kivu, qui est partenaire des Bouteli, analyse pour nous cette situation. Il s'entretient avec Sifa Maguru.
Monsieur Henri Pacifique Mayala, bonjour.
Bonjour, Madame Sifa.
Votre organisation Ebouteli travaille sur la dynamique sécuritaire, notamment la question des groupes armés à l'est de la RDC. Est-ce que vous confirmez les déclarations de certains chefs de guerre ou des milices locales du Nord Kivu, notamment le général autoproclamé Kabidon et son collègue Mapenzi, qui ont annoncé leur défection dans la coalition VDP pour se rallier au M23?
Oui, nous avons suivi ces déclarations qui ont fait état d'allégeance à la rébellion M23 AFC par les groupes armés FP de Mapenzi alliés avec le général autoproclamé Kabido, comme vous venez de le dire.
Comment vous analysez ces changements d'idéologie alors que hier, tous les groupes armés locaux étaient acquis pour combattre l'agression du Rwanda contre la RDC à travers le M23? Pensez-vous qu'il y a des motifs, des déceptions ou des frustrations aujourd'hui au sein des Wazalendo?
J'aimerais situer la lecture dans les temps, cette défection, s'il faut la qualifier de cette façon-là, pourquoi seulement aujourd'hui, alors que le M23, d'une certaine façon, a vraiment progressé, dépassé de loin ce qui serait supposé être le bastion de ces deux généraux. D'une part, je dirais que dès le début, il y a eu une certaine frustration, en tout cas de la part de Mapenzi, qui, d'une certaine façon, est dissident dans des groupes, le NDCR, qui a toujours été perçu comme étant prépondérant sur le terrain, ce qui se justifie aussi parce que lorsque toute cette mouvance Wazalendo commence, le gros des combats sont concentrés dans les zones qui sont à forte influence sous le NDC de Guidon et la paix céleste de Jean-Marie. D'une certaine façon, on dirait que Mapenzi se serait senti écarté par le fait qu'il n'était pas consulté au premier rang par le colonel qui à l'époque constituait la coordination des Wazalendo dans le territoire de Masisi et le nord-est de Walikale. Par contre, pour Kabido, ça reste problématique parce que depuis le début des offensives, on n'a pas vraiment senti son affiliation à la mouvance Wazalendo. C'est un peu comme s'il y a eu une sorte de d'accord tacite de non-agression entre le M23 et son groupe, parce que tout le moment où le M23 est passé dans l'espace qu'il était supposé contrôler ou vraiment arrêter la progression du M23, il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas battu, même au moment où le M23 prend la ville de Goma et met en place son administration et que certains de ses collaborateurs sont nommés au sein du M23. Il n'y a jamais eu de déclaration de sa part. Pour moi, je pense que il n'y a pas d'idéologie. C'est un acteur de la violence qui voit une opportunité et se positionne.
Actuellement, selon vous, cette alliance de certains Wazalendo et le M23 peut aller jusqu'où? Ou est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les déroulements des opérations, des affrontements ces derniers temps en Nord Kivu, notamment dans les Masisi et Walikale, où ils continuent à se battre?
Ils ont eu un rôle à jouer. Nous avons décrié la façon qu'a été constituée cette réserve de la défense armée, partant de motifs de mobilisation jusqu'à la supposée coordination qui devait être tenue par feu le général Chirimwami, l'absence de ses adjoints, le général Adiri et Mayanga, qui d'une certaine façon aussi étaient assez ancrés dans cette dynamique de groupes armés, semble ne pas donné une lueur à pouvoir lire avec une certaine certitude sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Mais pour moi, je pense qu'il y aura certainement un impact dans le sens où si les allégeances continuent à aller dans le sens à rejoindre le M23, alors que la performance des FRTC de l'autre côté n'est pas assez rassurante. Donc, je pense que cela puisse encore bouleverser davantage la donne sur les terrains.
Merci beaucoup, Henri Pacifique Mayala.
Merci, madame.
Notre invité était avec Sifa Maguro. Il est exactement 15h20 dans ses studios. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Tikota et supervisé par Martin Sebujangwe. Pierre Diassinois a assuré la mise en onde et grâce à Mzati à la présentation. Merci.